Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwa Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Comme chaque année, octobre rime avec une couleur, le rose. Le coup d'envoi de la campagne Octobre Rose a été donné hier. L'objectif est de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein et d'inciter les femmes du monde entier pendant un mois à aller se faire dépister.
Quand on est une femme de plus de 50 ans, on connaît bien la vie et celle de nos seins. On les aime plus ou moins, on en joue beaucoup ou pas du tout. On les porte fièrement ou pudiquement. On fait bien ce qu'on veut avec nos seins. Ils sont à nous. Mais ils sont comme nous, nos seins. Ils évoluent.
Le dépistage, à quoi ça sert? La mammographie, mal ou pas mal? Risque zéro ou pas? Alors j'y vais ou j'y vais pas?
D'après l'Organisation mondiale de la santé, 1 380 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année et 458 000 femmes en meurent. Il s'agit du premier cancer chez la femme dans les pays développés comme dans les pays en développement. Or, ce cancer se soigne bien s'il est détecté à temps. Le problème, c'est que le taux de dépistage reste insuffisant, notamment en Afrique, mais pas seulement. Pourquoi? Comment lever les réticences? Quels sont les signaux qui doivent alerter? À partir de quel âge doit-on faire une mammographie en cas de diagnostic positif? Quels sont les traitements les plus performants, les plus innovants? On en parle avec nos invités. Docteur Séverine Alrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgienne spécialisée en sénologie et gynécologie, coordinatrice du Centre du Sein de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Docteur Nasrine Calais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, oncologue à l'Institut Curie. Avec nous également Jolie Dion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach, réalisatrice et vous publiez aux éditions Un Monde Différent. Pressé ici, j'ai besoin d'être aimée. Un témoignage de résilience avec vos conseils pour aller bien ou aller mieux. Et puis tout à l'heure, nous discuterons avec le docteur Gertrude Louyeye-Mvila, professeur à la faculté de médecine à l'université Kasavubu et à l'université de Lubumbashi en RDC, radiologue sénologue à l'hôpital général de Kinshasa. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, un seul numéro, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Alrand, pourquoi est-ce encore compliqué de convaincre les femmes d'aller faire une mammographie? Est-ce que c'est le syndrome, le cancer, ça n'arrive qu'aux autres?
Oui, et puis il y a probablement aussi des croyances. Quand une voisine ou une amie a été, on va dire, prise en charge tardivement et que ça se passe mal, on considère que si on va voir le médecin, ça va être la fin des choses. Or, on sait bien que plus on prend tôt, plus les traitements sont efficaces et plus la survie est bonne.
Docteur Calais, une mammographie, c'est-à-dire la radiographie des seins, ce n'est pas très agréable, ça peut même être un peu douloureux, mais ça ne dure que quelques secondes. Alors, est-ce que c'est l'examen qui fait peur ou est-ce que ce sont les résultats de l'examen qui font peur?
C'est les deux, je pense que c'est les deux. Il y a la mammographie, en fait, c'est une des radios des deux seins. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul examen qui permet de dépister le cancer du sein, mais surtout des états qu'on peut appeler précancéreux. Alors, ça fait mal, c'est pas très agréable. Mal,
il faut expliquer que le sein...
On met le sein entre l'appareil de radio, deux plaques, et on appuie dessus. Pour les femmes qui sont pas ménopausées, qui sont réglées, je conseille toujours de le faire après les règles. Les seins sont mieux visibles et moins douloureux. Et sinon, ça dure franchement pas longtemps. Alors, aujourd'hui, comme je disais, c'est le seul examen qui permet de dépister non seulement les tumeurs, mais surtout, notre but dans le dépistage, c'est de dépister des stades très précoces, c'est-à-dire des maladies qui peuvent vraiment être traitées avec une rémission et une guérison. Donc, c'est l'examen clé. Il ne faut pas avoir peur. Le résultat, bien sûr, ça fait peur parce qu'on ne peut rien palper soi-même ou son médecin, mais trouver une anomalie au sein qui est justement un état précancéreux ou un cancer débutant. Donc, il vaut mieux savoir ça au début puisque, comme vous avez dit très justement, le pronostic de cette maladie qui est quand même une maladie très grave, qui est responsable quand même de 12 000 décès par an dans notre pays, est quand même lié au stade de découverte. C'est le but de campagne de dépistage qui malheureusement n'est pas très bien suivi, puisque en France, c'est à peu près 52% de la population qui est convoquée pour faire le dépistage qui adhère. Or, pour qu'un dépistage soit efficace dans la population générale, lors d'une politique de santé et prévention de cancer du sein, il faut que ça dépasse 70%. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire, d'où l'intérêt de l'Octobre Rose.
Il faut quand même dire que la mammographie expose à des rayons X. Alors, quelle est la balance bénéfice-risque de cet examen?
Alors, ça, c'est vrai que la les mammographies sont des rayons. Maintenant, avec les nouveaux appareils de mammographie, on délivre beaucoup moins de rayons. Mais après, il faut mettre en balance le risque et bénéfice de ça. Les mammographies ne délivrent maintenant pas beaucoup de rayons. Ils sont souvent couplés à d'autres examens, comme l'IRM parfois chez les femmes à risque ou des échographies qui ne donnent pas de rayons. Et donc, les patientes ne sont pas soumises à une irradiation importante. Mais il faut garder aussi en esprit qu'il faut cibler la mammographie selon les personnes, selon leurs facteurs de risque. Dans le dépistage de masse, en France en tout cas, entre 50 et 75 ans, on le fait tous les deux ans. Il faut pas oublier qu'il y a, dans ce dépistage de masse, il faut sortir de ce dépistage de masse vers un dépistage orienté, c'est-à-dire chez les femmes qui ont plus de risques de cancer du sein. Donc, d'où l'étude qui va être bientôt mise en place à partir de 1er décembre.
Une étude européenne.
Européenne et américaine, où on va en fait sélectionner les patients selon leurs facteurs de risque de cancer du sein. Donc on a trois catégories de patientes, entre guillemets, ou de femmes plutôt, qui auront le risque faible, le risque moyen et le risque sévère.
Donc ça veut dire qu'on va vers un dépistage individualisé.
Individualisé. Et c'est bien démontré que c'est le dépistage orienté individualisé qui est très efficace, notamment sur la baisse de mortalité des femmes.
On va prendre au téléphone Astrid qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour.
Bonjour Charlotte.
Astrid, on vous écoute. Vous pouvez poser votre question au docteur Calais ou au docteur Alran. On va voir ça dans quelques secondes. Allez-y Astrid.
Oui, d'accord. Je voulais savoir quelle est la cause principale du cancer du sein.
Alors, docteur Calais, quelle est la cause principale du cancer?
Alors, ça, c'est une bonne question, mais malheureusement, on ne connaît pas la cause principale d'un cancer du sein. Si on savait exactement la cause, on guérirait tous les cancers du sein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs favorisants, mais il n'y a pas de cause, en fait, connue à ce jour. Parce que tous les traitements qu'on fait traitent la maladie, mais ne traitent pas la cause. C'est vrai. Après, il y a des facteurs favorisants. Avant tout, c'est surtout les antécédents familiaux. Si on a dans sa famille des femmes qui ont des cancers du sein, famille proche, mère, grand-mère, tante, sœur, il faut un petit peu être plus vigilante. D'où le dépistage orienté dont je parlais. Après, il y a des facteurs liés à la vie gynécologique de la femme, c'est-à-dire les grossesses tardives, absence d'allaitement, avoir des traitements hormonaux à long cours et mal adaptés peut favoriser. Il y a des facteurs d'environnement aussi, tout ce qui est, si vous voulez, de pollution, le tabac, l'alcool, qu'il ne faut pas oublier. Il y a des études récentes qui disent que l'alcool est exactement au même, dans le même ordre que le tabac. Donc, c'est des cofacteurs de cancer du sein. Mais la cause exacte, on ne le sait pas.
Mais est-ce qu'il faut aussi aller chercher du côté du tabac, de l'alcool,
oui,
du surpoids?
Oui, oui. Le tabac et l'alcool ont démontré que ce sont des cofacteurs. La sédentarité, le surpoids, l'obésité également sont des facteurs de risque.
Ma jolie Dion.
Oui, je voulais ajouter aussi les facteurs émotifs.
Oui, voilà.
Parce qu'on parle beaucoup de causes traditionnelles, le tabac et tout et tout. Et
Il faut expliquer. Voilà, vous avez eu un cancer, vous avez subi une mastectomie complète. Oui. Et dans votre livre pressé ici, J'ai besoin d'être aimée, vous émettez l'hypothèse de l'impact des émotions sur notre corps. C'est de ce côté qu'il faut aller chercher, selon vous, pour expliquer le développement d'un cancer chez quelqu'un.
En fait, je parle toujours pour mon cas personnel. Nous, on n'a pas de cancer dans ma famille. Il n'y a aucune personne qui a de cancer. Donc, dans mon cas, quand on m'a diagnostiqué avec un cancer, je me suis dit « Ah, c'est intéressant parce qu'on n'en a pas chez moi. » Et personne ne pouvait m'expliquer encore. On sait que c'est peut-être pas toujours explicable. Donc, j'ai fait le lien avec des chocs post-traumatiques sévères que j'ai vécu avant le cancer. Et je pense, et je le crois sincèrement, que j'avais un terrain très propice puisque nous fabriquons des cellules cancéreuses régulièrement. On les élimine. C'est notre corps est très bien adapté à ça. Mais si tu es constamment en train de regarder vers l'extérieur et l'environnement autour que tu vis est difficile, ben ton corps, tu n'es pas en train de le nettoyer régulièrement. Donc, il y a certains cancers que je considère quand même assez émotifs, d'une part. Surtout quand tu as eu un très, très gros choc post-traumatique. Donc, c'est courant de voir qu'une femme peut avoir perdu son enfant et quelques années plus tard développer un cancer. Et il y a des thèses qui sont en train de se faire là-dessus. Mais bon, encore là, ça fait partie d'un côté sain, autant de bien manger, de bien nourrir nos émotions, de bien nettoyer notre jardin intérieur, de s'assurer que chaque jour, on prend le temps de se dire « Aujourd'hui, est-ce que je me suis choisie? » Parce que moi, pendant des années de temps, je me suis pas choisie. Et je sais peut-être pertinemment que dans mon cas à moi, je reviens toujours à moi, que oui, les émotions ont pu avoir enclenché un cancer.
Docteur Alleron, est-ce qu'une scientifique peut être d'accord avec Majolie Dion?
Moi, je trouve que c'est toujours étonnant et très intéressant d'écouter effectivement le ressenti des personnes, parce que c'est vrai que dans nos consultations, on se rend bien compte que chaque personne qui a un cancer va d'abord se dire « Pourquoi j'ai ce cancer ?» et va chercher en elle finalement ce qui s'est passé. Donc après, on a l'habitude de dire qu'en cancérologie, le développement est jamais lié à un seul facteur. C'est probablement une association de facteurs. Après, les causes psychologiques, parce que toutes les patientes nous demandent, voilà, vont nous dire « J'ai eu ça ». Et c'est toujours difficile sur le plan scientifique de prendre un groupe de personnes qui n'a pas eu de choc psychologique. Qui n'a jamais eu de choc psychologique? Ouais. Après, pourquoi ça se développe chez une personne et pas chez une autre? C'est probablement un facteur scientifiquement, c'est effectivement complexe à démontrer. C'est comme, par exemple, la mutation du gène BRCA. Quand on l'a trouvé, on s'est dit, ça y est, on a trouvé la cause du cancer du sein. Or, ce n'est à l'origine que de 8% de l'ensemble des cancers. Donc, on s'est dit, avec la génétique, on a trouvé le Graal, on a compris. Non, c'est comme dans la vie, quand c'est... Voilà, c'est jamais si simple que cela. Et les cellules cancéreuses ont, je pense, une intelligence très particulière et se développent dans un corps qui est différent. Et ce corps est soumis à la fois aux agressions extérieures, à ses propres, Et le côté émotionnel, pourquoi pas, scientifiquement, on ne l'a pas encore démontré, mais voilà, les voies de recherche sont ouvertes.
On va prendre une autre question d'auditrice. Ami nous appelle de Thiès au Sénégal. Bonjour, Ami.
Bonjour, Caroline.
Ami, vous avez la parole, on vous écoute.
Voilà, moi, ma préoccupation est que ma mère est décédée d'un cancer du sein quand elle était enceinte de moi. Donc, 3 mois après ma naissance, elle est décédée. Et en 2012, j'ai constaté une petite boule au niveau du sein gauche. J'allais à l'hôpital faire une mammographie et les résultats ont montré que ce n'était pas le cancer. Depuis lors, j'ai une peur bleue de cette maladie. Aussi, j'aimerais savoir quels sont les risques que j'encours. Merci.
Alors, docteur Calais, Amie est inquiète. Est-ce qu'elle a raison d'être inquiète?
Disons, il ne faut pas qu'elle soit inquiète, mais il faut qu'elle soit vigilante. Effectivement, alors, juste un petit mot, c'est qu'on a parlé des gènes. On connaît que 3 gènes, au jour d'aujourd'hui, qu'on a pu mettre en évidence qui sont impliqués dans les cancers du sein. Mais l'espoir du futur, c'est de trouver d'autres gènes. Donc, c'est pour ça que Marjolie disait, dans ma famille, il n'y a pas de cancer du sein. Mais on ne sait pas, en fait. Peut-être qu'il y a des gènes qu'on ne connaît pas. Donc, on ne l'a pas cherché, en fait. Alors, pour Amy, il ne faut pas être inquiète. Il faut être vigilante. Il faut quand même faire ses mammographies régulièrement. Et un peu plus qu'une femme de la population générale. Parce qu'il y a un antécédent direct de femme jeune, sa maman. Donc, il faut qu'elle soit très vigilante pour les mammographies, les faire régulièrement.
Alors, justement, elle a fait une mammographie en 2012, dont les résultats étaient négatifs. On est en 2018. Est-ce qu'il est temps que Camille fasse une nouvelle mammographie?
Je ne sais pas si elle en a fait depuis, mais normalement, il faut que Camille fasse des mammographies entre 1 an et 18 mois. Et puis, si elle a des seins qui, d'après ce qu'elle me dit, qui peuvent être peut-être denses, on peut le compléter par un autre examen qui est l'échographie qui ne donne pas de rayons et éventuellement une IRM si elle peut. Mais en tout cas, sur les mammographies, il faut qu'elle soit très vigilante.
Ami, est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous allez faire une mammographie prochainement?
Bon, je vais faire prochainement parce que c'est vrai que je devais les faire tous les 2 ans. Oui. Mais bon, puisque...
Elle a quel âge, Amie?
Je l'avais fait à l'hôpital principal de Dakar.
À 40 ans.
Amie, vous avez la quarantaine, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bon, c'est bien. C'est bien, voilà.
Merci beaucoup, Amie, de nous...
Juste une autre... Amie, voilà, je souhaiterais juste aussi... L'échographie annuelle aussi est très importante parce que quand on a les seins denses, parfois la mammographie ne peut pas voir ce qu'on appelle des boules, c'est-à-dire des condensations ganglionnaires. Donc, l'échographie annuelle, effectivement, la mammo. Et quel âge avait votre mère au moment où elle est décédée?
Amie, est-ce que vous connaissez l'âge de votre mère quand elle est décédée de ce cancer du sein ? Ami, non, non. Il semble que nous ayons perdu Ami. Majolie, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je voulais rebondir, en fait. Moi, j'ai eu plusieurs mammographies. J'ai pris position pour qu'on continue les recherches parce qu'on me disait qu'ils voyaient absolument rien à travers les mammographies. Et c'est via l'échographie qu'ils ont trouvé les lésions. Et j'ai décrit dans le livre que c'est un peu comme un ciel en nuageux. Quand tu as beaucoup les seins denses, c'est difficile de voir les étoiles. Donc, en théorie, lorsqu'on arrive en mammographie qu'on a un sein très dense, malheureusement, même si les radiologistes sont très bons, ils ne voient pas nécessairement les étoiles. À travers l'échographie, ils vont être habilité à être capable d'aller chercher et c'est là qu'ils ont trouvé. Mais j'ai tenu mon bout, j'avais 47 ans à l'époque, je voulais, je savais, ça me démangeait, je savais que j'avais un cancer.
Mais voilà, vous écrivez, quand on vous pose souvent la question « comment as-tu su que tu avais le cancer ?», vous répondez « je le savais parce que mon corps me le criait ».
Ouais, il me le criait depuis 2 ans avant. Hein. Et puis, comme j'ai insisté, parce que je pense que il est important d'apprendre à bousculer les choses lorsqu'on sent dans nous ce cri. Et je me remercie avant tout parce que j'ai demandé qu'on fasse l'échographie des deux seins. Ils avaient vu une petite tache du côté droit. J'ai dit non, c'est dans mon sein gauche. Ils ont refait l'échographie et j'avais 3 lésions dans le sein gauche qu'ils ont trouvées. Et j'ai une récidive par la suite. Alors, pour moi, c'est important d'écouter notre corps. C'est très important. Le corps sait nous parler. C'est juste qu'on prend pas le temps de l'écouter.
Docteur Alran, vous êtes d'accord?
Les femmes connaissent très bien leur corps, donc il faut qu'elles se fassent confiance. Oui. Et c'est effectivement clé. On vit dans un corps depuis sa naissance, on le connaît, il y a des changements qu'on perçoit. Après, effectivement, on n'a pas toujours, l'intuition ne se vérifie pas toujours, mais s'il y a un doute, surtout à partir de 40 ans, il faut pas hésiter à prendre l'avis d'un médecin pour faire un examen complémentaire, qui est une mammo, avec une échographie, et surtout avant l'âge de 40 ans. Et le fait d'avoir... Voilà. Après, c'est quand on est jeune, on n'est pas non plus à l'abri. Hein, donc, y a des formes chez des femmes jeunes. Et c'est toujours, c'est quand c'est un seul sein. Quand c'est les deux seins douloureux, on n'est pas très inquiet.
Ouais, mais un sein douloureux, là, il faut...
Alors, pas forcément douloureux, mais une boule dure ou une déformation mamelonnaire ou une petite fossette sur la peau, une petite cicatrice à la peau, quelque chose d'in... Et les femmes savent.
Et pas seulement sur les seins, sous les aisselles aussi.
Oui. Et toute boule dure, inhabituelle, sous l'aisselle, on consulte et on fait une imagerie.
Et les démangeaisons. Moi, j'avais une démangeaison intense près du mamelon.
Et on nous dit, effectivement, on parle de picotement, de démangeaison, c'est des signes qui reviennent.
En fait, il faut écouter son corps.
Oui. Pour rebondir au niveau des gènes, tantôt, là, vous disiez, je mentionne en fait, parce que j'ai eu une conversation avec un médecin, entre autres, qu'on parlait d'équilibre et environnemental. Tu peux avoir 3 sœurs qui portent le même gène, qu'ils ont tous le gène, et il y en a une ou deux qui le développent ou pas. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une ou deux ou l'autre ne le développe pas quand ils ont tous deux le même terrain? Donc, de là à se dire, et quand tu fais les recherches, c'est vrai, les gens sensibles, on a un terrain propice parce qu'on est des gens sensibles. Donc, il y a aussi, oui, on a peut-être pas courant.
Oui, c'est l'épigénétique, c'est l'environnement.
Voilà, l'environnement, le déséquilibre total, lorsque ton terrain est dans un environnement déséquilibré, même titre qu'on plante un arbre, si vous le mettez dans un endroit avec un sol défertilisé, les pommes ne seront pas aussi bonnes que si elles sont dans un terrain très bien cultivé.
On va continuer dans un instant à parler d'Octobre Rose, cette campagne qui jusqu'au 31 octobre donc vise à sensibiliser au cancer du sein en incitant les femmes à se faire dépister. Des personnalités se sont engagées dans cette campagne, à l'image de l'américaine Serena Williams. La championne de tennis a posté sur Instagram une vidéo où elle chante, topless ou presque, le tube I Touch Myself.
I love myself. I want you to love me when I feel down. I want you above me. I search myself. I want you to find me. I forget myself. I want you to remind me. I don't want anybody else. When I think about you, I touch myself. Oh no, oh no, oh no.
Nous sommes toujours avec les docteurs Séverine Alran et Nasrine Calais et la réalisatrice coach Majoli Dion. C'est important, docteur Alran, que des personnalités du monde du spectacle, des people, s'engagent comme ça dans une campagne comme Octobre Rose.
Je pense que c'est très important parce que finalement, à travers ces personnalités, la femme va se reconnaître. Effectivement, enfin, moi, j'admire le courage qu'a eu Angelina Jolie. Hein, effectivement, on a pu se dire, mais c'est quoi, elle montre ça. Mais au moins, ça a libéré la parole. C'est-à-dire qu'un symbole de la femme.
Angelina Jolie a décidé. Voilà.
Angelina Jolie n'avait pas de cancer, mais dans sa famille, il y avait sa mère, des sœurs, des tantes qui avaient un cancer du sein et cancer des ovaires. Et effectivement, elle était exposée, on va dire, à beaucoup plus de risques que la population générale d'en développer un. Donc, elle était mutée. Elle avait donc une mutation génétique BRCA et elle a choisi d'aller vers une chirurgie préventive, c'est-à-dire qu'elle s'est fait l'ablation des deux seins et des ovaires parce qu'elle est dans une famille à très haut risque. Donc c'est rare, hein, le cas d'Angelina Jolie, ouais. On peut pas le transposer à tout le monde. Et effectivement, elle aurait pu le garder pour elle, mais elle a choisi de communiquer, je pense, pour justement dire aux femmes, ne restez pas dans un monde caché, hein, et ça permet de lever la parole et finalement de parler, on va dire, de la maladie, comme de parler de tout, on va dire, toute difficulté dans la vie. Et surtout, quand ça touche les seins, c'est quand même la féminité. Et là, c'est une actrice qui... Et effectivement, ça a des impacts parfois disproportionnés. Hein. Moi, le lendemain de son annonce, je reçois une dame en consultation. Elle avait un tout petit cancer, 1 centimètre, sans problème ganglionnaire. Et donc, je lui prévois l'exérèse du nodule et du ganglion sentinelle. Et son mari, à côté, me dit « Mais est-ce que vous pouvez pas faire comme Angelina Jolie, lui enlever les deux seins ?» Alors là, j'étais assise par terre. C'est-à-dire voir l'impact, effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'après, il faut pas tout confondre. Angelina Jolie l'a fait dans une situation très particulière. Il y a eu cette recherche génétique. On n'enlève pas les seins à toutes les femmes, ça c'est clair. Mais à celles qui sont exposées vraiment à un risque très élevé.
On va partir maintenant pour le Cameroun. Youssouf nous appelle de Maroua. Bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à vos invités.
Alors, quelle est votre question, Youssouf?
Ok, ma première question est de savoir quels sont les signes cliniques annonciateurs d'un cancer du sein.
Et votre deuxième question?
Et la deuxième est de savoir si le cancer du sein pourrait aussi affecter les individus de sexe masculin dans les hommes.
Donc, docteur Calais, on a déjà un petit peu parlé donc des signes indicateurs.
Les signes indicateurs, on en a parlé avec le docteur Alran. C'est pour ça qu'on fait aussi dans la campagne de dépistage une sensibilisation à l'autopalpation des seins, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes, comme on a dit, connaissent mieux leurs seins. Une boule qui est là, qui ne bouge pas avec le cycle. Parfois, c'est douloureux, parfois, c'est pas douloureux, ça, c'est pas un signe. Une modification de la peau, un écoulement par le mamelon, une rougeur de la peau qui ne part pas et des boules, bien sûr, sous les selles sont des signes qui doivent faire consulter. C'est pas toujours un cancer, mais il vaut mieux consulter.
Alors, la deuxième question de Youssouf, donc, est-ce que les hommes peuvent être atteints d'un cancer du sein?
La réponse est oui. C'est pas la majorité puisque c'est 1% des cancers du sein surviennent chez l'homme, mais chez l'homme, notamment chez les hommes qui ont dans leur famille des cancers du sein, et il faut un petit peu être plus vigilant s'il y a une boule au sein. En général, c'est à peu près le signe annonciateur, une boule ou un ganglion sous l'aisselle. Ça se traite pareil, c'est pas la majorité des cas. Et quand un homme a un cancer du sein, là, normalement, il faudra faire une recherche génétique chez lui afin de déterminer son statut génétique, notamment pour sa famille.
Merci Youssouf d'avoir été en ligne avec nous de Maroua au Cameroun. On retourne au standard. Zouzabé est en ligne de N'Djamena au Tchad. Bonjour. Zouzabé, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour Chantal.
Alors Zouzabé, on vous écoute toutes les trois. Posez votre question.
Alors, Madame Chantal, j'ai une inquiétude.
Oui.
J'ai ma voisine que nous sortons ensemble.
Votre petite amie, donc?
Ma petite amie, et elle avait, suite aux campagnes contre les cancers de sein lancées dans notre pays, elle était partie et on a diagnostiqué un cancer de sein.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Oui, Oui, et là, les médecins ont décidé de l'ablation du sein cancéreux.
Donc, elle a subi une ablation du sein.
Oui, et par la suite, les mêmes signes ont encore réapparu sur l'autre sein.
Donc, maintenant, vous vous demandez?
Oui, la question que je me pose est que, est-ce que il n'y a pas d'autre alternative que l'ablation du sein? Et ma deuxième question.
Oui, Zouzabé, on vous écoute.
C'est de savoir, est-ce que les signes qui ont réapparu sur l'autre sein vont nécessairement déboucher encore sur un autre cancer de sein? Et la troisième question est de savoir le fait que nos thorax soient constamment en contact. Est-ce que moi aussi j'encours des risques, madame?
Ah, d'accord. Docteur Alran, est-ce que vous pouvez répondre à
Zouzabé? Le cancer n'est vraiment pas contagieux. C'est pas une maladie infectieuse, c'est vraiment un autre phénomène. Ce n'est absolument pas contagieux. On peut toucher les gens qui ont eu un cancer, ça ne viendra pas ni à l'homme, ni à la voisine, ni aux enfants. Hein. Si une maman peut être enceinte, hein, elle ne le transmet pas à son enfant. Donc ça, c'est vraiment clair. Non, le cancer n'est pas contagieux. Pour la question précédente, qui sont effectivement qui doivent être assez difficiles, enfin, qui ont dû être assez difficiles pour vous, là, pour l'instant, si votre ami a quelque chose dans l'autre sein, pour l'instant, s'il n'y a pas eu de biopsie ou quoi que ce soit, on ne parle pas de cancer. Donc, il faut pas vivre dans le vague. Et dans ce cas-là, c'est consulter le centre de santé qui est près de chez vous pour qu'elle soit examinée. Qu'il y ait un examen qui soit fait et éventuellement une biopsie qui soit faite. Pour l'instant, votre amie, il n'y a pas de diagnostic de cancer. Effectivement, si elle a eu le premier jeûne, il faut vraiment prendre un avis médical. Concernant l'ablation de l'autre sein, donc on est très clair, on n'enlève pas le sein si on ne sait pas s'il y a un cancer et on n'enlève pas le sein à chaque fois qu'il y a eu un cancer du sein. Mais s'il y a plusieurs nodules cancéreux, là, effectivement, il n'y a pas d'alternative à l'ablation et on est obligé de faire l'ablation.
Donc il faut faire une biopsie pour être fixé, pour savoir.
Voilà, c'est la biopsie. Ensuite, les médecins, en concertation, vont voir les traitements, s'il y a lieu, qu'il faut proposer à votre ami.
Merci Zoubabé, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Direction à présent la République démocratique du Congo. Nous avons en ligne le docteur Gertrude Louyeye Mvila. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la faculté de médecine à l'université Kasavubu et à l'université de Lubumbashi. Vous êtes aussi radiologue, sénologue à l'hôpital général de Kinshasa et présidente de l'ONG Repos, Regard pour un sein sain, sain S-A-I-N, une ONG qui lutte et sensibilise sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Docteur Louyeye Mvila, est-ce qu'on connaît le nombre de femmes touchées par un cancer du sein en RDC?
Ben, disons que, comme il n'existe pas une étude nationale, les données que nous avons sont des données qui sont calquées sur les données de GloboCan de l'Afrique centrale. Et donc, on a une incidence d'à peu près 25 femmes pour 100 000.
Et est-ce que les femmes congolaises vont se faire dépister facilement? Est-ce qu'elles sont conscientes du risque de cancer du sein? Ou est-ce que c'est encore un sujet tabou?
Disons que ce n'est pas un sujet tabou parce qu'on en parle de plus en plus depuis 2010. Hein. Seulement le problème, le dépistage coûte excessivement cher au Congo. Et donc les femmes qui viennent à l'hôpital, jusque-là les mammographies que nous faisons dans les hôpitaux, c'est plus de mammographies de type, ils viennent pas pour juste un dépistage, mais ils viennent vraiment pour un diagnostic. Donc ce sont des femmes qui viennent déjà à un stade assez avancé, avec des masses qui sont déjà douloureuses, et même certaines viennent avec déjà des masses ulcérées, c'est-à-dire des mastites en état de mastite carcinomateuse. Et donc, jusque-là, il n'y a pas de politique nationale concernant le dépistage volontaire du cancer de sein. Les femmes profitent généralement de mois comme Octobre Rose, où il y a certaines ONG qui se réveillent et qui appellent les femmes à se faire dépister gratuitement. En ce moment, ces femmes sont envoyés dans les hôpitaux où nous travaillons. Il y a à peu près 5 ou 6 hôpitaux ici à Kinshasa qui ont des mammographes. En ce moment-là, on fait des dépistages et on voit des masques qui existaient déjà. Mais les femmes profitent de ce moment-là pour venir à l'hôpital.
Je crois qu'il y a aussi un...
Ce n'est plus un sujet tabou, oui.
Mais je crois qu'il y a aussi un autre problème dans votre pays, c'est que vous manquez de spécialistes pour lire les biopsies mammaires, par exemple.
Tout à fait, Chantal. Et ça, c'est un autre grand problème. J'écoutais tout à l'heure un correspondant qui appelait, je crois, de Dakar, ou je ne sais plus, qui a parlé des masses qui étaient, enfin, d'une amputation d'un sein, et puis après, il fallait amputer l'autre sein. Nous avons ces problèmes ici au Congo parce que comme on n'a pas assez d'anatomopathologistes, surtout dans les provinces, il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 2 ou 3 ans, moi, j'ai eu un cas où je fais une biopsie chez une dame. J'ai insisté pour que le médecin attende parce que j'ai soupçonné que ça ne pouvait pas être un cancer. Et la dame, entre-temps, le médecin a quand même amputé le sein. Et quand le résultat revient, c'était une tuberculose. Et donc, j'insiste quand je vais voir le médecin pour dire, dans notre contexte à nous, Africains et Congolais en particulier, les cancers de sein ont beaucoup de similitudes avec les tuberculoses mammaires. Et donc, il faut faire très attention. Et donc, c'est un élément très, très, très important. Et comme on n'a pas assez d'anatomopathologistes, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une femme se présente avec une masse? Le médecin a tendance à directement faire l'amputation. Et ça, c'est vraiment le combat que je mène, même auprès de mes confrères médecins ici au Congo. Je fais beaucoup de conférences. Heureusement qu'on a de plus en plus des médecins qui sont aussi sensibilisés là-dessus pour qu'on ne puisse pas amputer à tout bout de champ. Donc, il nous faut vraiment une formation d'anatomopathologiste. Tenez, par exemple, ici à Kinshasa, on n'a qu'un seul médecin, un seul anatomopathologiste qui sait nous faire le dosage des récepteurs hormonaux. Vous voyez? Et donc, et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une masse? Nous confirmons seulement le cancer. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, puisqu'on n'a même pas de radiothérapie, ben allons-y, on ampute. Mais j'insiste auprès des médecins pour dire, avant d'amputer, soyez au moins sûr que c'est un cancer. En ce moment-là, comme il n'y a pas de radiothérapie, bien, la femme a quand même la chance d'être en vie pour amputation, mais au moins sur un terrain de cancer et pas sur un terrain de tuberculose.
En matière de sensibilisation, donc je reviens un peu à la prévention, quel est le message que vous voulez faire passer en priorité aux populations?
Le message, c'est, j'explique souvent aux femmes, de savoir se palper les seins, et surtout de connaître la physionomie ou la physiologie, même la forme des seins. Parce que généralement, quand les femmes font attention, je leur dis toujours, les deux seins n'ont pas toujours les mêmes volumes. Il y a toujours un sein qui est légèrement un peu plus volumineux que l'autre, mais il faut déjà le savoir. Parce que parmi les signes aussi, il y a la prise de volume d'un sein. Mais si vous savez déjà que votre sein gauche est celui qui est le plus gros, vous n'allez pas vous inquiéter du tout. Je dis aussi aux femmes qu'on ne doit pas avoir une masse dans son sein. Et généralement, la question, surtout chez les jeunes femmes, elles vous demandent, mais docteur, il y a toujours une masse dans mon sein. Comment faire la différence entre une masse normale et une masse pathologique? Surtout, la difficulté, comme on le sait, pour le cancer des seins, c'est que les masses, au début, elles font pas mal. C'est pourquoi les femmes viennent en retard. Et donc, vous devez expliquer ça. J'explique aux femmes que vous devez connaître la forme de vos seins, connaître quel est le sein qui est plus gros par rapport à l'autre. Deuxième chose, vous ne devez pas avoir les masses dans vos seins, qu'elles fassent mal ou pas. Lorsque vous avez une masse, allez vite voir le médecin. En ce moment-là, à l'hôpital, on fera une différence entre une masse pathologique ou non. Et troisième chose, je dis toujours aux femmes, surtout les femmes mariées, qui résistent lorsqu'on a confirmé un cancer pour que se faire amputer. Parce que la question, c'est toujours, docteur, mais si vous enlevez le sein, mon mari va me répudier. Alors, mais je dis toujours, mais si le mari ne vous répudie pas, que vous restez avec votre sein, vous allez quand même mourir. Et le jour de votre deuil, vous serez quand même séparé de votre mari. Pensez d'abord à vous. Ça, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Les femmes doivent d'abord penser à elles et pas au mari ou aux autres. Voilà un peu.
Et vous conseillez donc à la femme d'aller se faire dépister à partir de quel âge?
Ben pour nous, les femmes noires, c'est prouvé. Les études sont là pour les prouver. La femme noire, elle fait son cancer un peu plus tôt que la femme blanche de type caucasien. Et donc, nous, ailleurs, on fait je crois qu'en France, on demande aux femmes de se faire dépister à partir de 50 ans. Et pour la femme noire, nous avons des cancers à 17 ans, à 18 ans, 25 ans, avec un pic à 35 ans. Et donc, nous, chez nous, nous conseillons aux femmes de le faire avant 40 ans. Donc, à partir de 40 ans, nous demandons aux femmes qui n'ont pas d'antécédents familiaux dans leur de cancer, d'aller se faire dépister. Mais pour celles qui ont dans leur famille des de tantes ou de mères qui ont fait un cancer, nous regardons par rapport à l'âge. Et je vous assure, on a beaucoup de cancers avant 40 ans. Et donc, nous disons aux femmes, si votre maman est décédée, par exemple, à 30 ans ou à 35 ans, vous les faites un peu plus tôt, 10 ans avant. Et donc, je dis à ces femmes-là, si ta maman est morte à 35 ans, par exemple, toi, tu les fais à partir de 25 ans. Mais on doit les conscientiser et surtout les sécuriser et les calmer un peu, hein, parce que ça fait quand même peur. Et je vous assure, parmi la population la plus difficile, ce sont les médecins et les infirmiers, les personnels médicaux en général. Nous avons même perdu des femmes médecins qui étaient réfractaires justement à ça, parce que c'est vraiment une population difficile à convaincre, les personnels médicaux. Mais chez nous, dans la femme noire en général, je voudrais, comme je sais que l'Afrique m'entend, dans l'Afrique noire en général, les femmes noires doivent avoir l'habitude de se dépister avant la femme blanche, parce que nos cancers à nous, des femmes noires, viennent un peu plus tôt que chez la femme blanche.
Merci beaucoup, docteur Gertrude Louyayem-Villa, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté de médecine à l'université Kasavubu et à l'université de Lubumbashi, radiologue sénologue à l'hôpital général de Kinshasa, et que vous présidez l'ONG Repos. Le site internet de votre ONG, www.reposong.org.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Zainab est en ligne de Lomé au Togo. Vous êtes la présidente de l'association Femmes sans cancer. Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors Zainab, vous voulez briser le silence. Le cancer du sein est encore un sujet tabou au Togo.
Oui, exactement. À ce jour, le cancer du sein au Togo, personne n'en parle. C'est tout un silence. Et donc, Femmes sans cancer, qui est une association qui a vu le jour en décembre 2017, veut briser ce silence-là. Et donc, notre mission, alors, c'est donc de parler du cancer du sein. Et donc, nous informons, nous mobilisons et nous réconfortons. Nous informons pour donc donner des informations correctes, exactes par rapport au cancer du sein, parce qu'il y a beaucoup d'informations, de mauvaises informations qui circulent à travers les réseaux sociaux. Et nous voulons mobiliser pour un changement, parce que les coûts des traitements, ça coûte encore très cher. Il n'y a pas de radiothérapie au Togo. Et nous voulons réconforter pour marquer notre solidarité avec celles qui souffrent. Hein. Et là, nous confectionnons des prothèses mammaires que nous donnons gratuitement aux femmes qui ont subi l'ablation des seins.
Et Zainab, vous avez une application disponible en langue locale, en MINA?
Oui, justement, pour donc briser ce silence-là, nous exhortons les femmes à l'auto-examen des seins.
Et l'auto-palpation, voilà, dont on en parlait tout à l'heure.
Nous utilisons la vidéo du cancer du sein du Québec, hein. Et nous utilisons un poster développé par Corinne Beaumont, une Américaine, et dénommé Connais, tu t'excitons. Merci. Alors, à travers ce poster-là, le poster explique clairement les signes et symptômes du cancer du sein. Et nous avons 12 signes du cancer du sein. Et à travers tout le monde, toute femme qui a eu un cancer du sein se retrouve dans l'un de ces symptômes-là.
Merci beaucoup Zainab. On est un petit peu pressé par le temps. Merci d'avoir témoigné depuis Lomé au Togo. Docteur Alaran, on le voit, hein, il faut encore beaucoup de pédagogie pour expliquer le cancer du sein, pour expliquer la prévention, l'importance du dépistage.
Et tout à fait. Donc, suite à l'intervention, effectivement, du docteur Gertrude à Kinshasa, qui est effectivement très, on voit que c'est des réflexions de terrain. Également, l'initiative de madame Moumouni au Togo, où justement, c'est libérer cette parole. Et effectivement, ça reste une affaire politique. Et effectivement, comme Aurélien Barraud a fait le cri d'alarme en écologie, effectivement, il peut y avoir aussi un cri d'alarme en santé. Les politiques doivent investir sur le terrain. Effectivement, le fait de dépister ne veut pas dire qu'on va guérir, car un cancer ne se prend bien en charge que si nous sommes plusieurs spécialistes. Et j'insiste sur ça, comme le disait le docteur Gertrude, s'il n'y a qu'un seul pathologiste pour tout un pays, pour avoir fait récemment une mission avec Médecins Sans Frontières au Mali, on sait qu'il y a un laboratoire de pathologie pour tout le Mali, que les lames, comme le disait le docteur Gertrude, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle le types de cancers, c'est-à-dire les récepteurs hormonaux, l'HER2. Et pour cela, on va faire des traitements inadaptés. Et on va faire parfois des traitements par excès, des mastectomies, parce que c'est insuffisant. Donc, mais pour cela, effectivement, c'est un investissement qui doit être fait. Donc, les chirurgiens, les gynécologues, les pathologistes, mais il ne faut pas oublier aussi les radiologues, hein, et tout de suite le binôme des radiologues et des chirurgiens dès le départ. Hein, parce que la bonne prise en charge, si c'est dès le départ on fait le bon diagnostic, on aura le bon traitement. Donc c'est vraiment très important cette coordination entre professionnels pour le pour pas qu'on dise bah, si on se fait traiter, on meurt. C'est pas ça. C'est que si on se fait traiter et bien diagnostiquer, la guérison est possible.
Docteur Nasrine Kala, quelles sont les idées reçues que vous combattez encore dans votre cabinet aujourd'hui, idées reçues sur le cancer du sein?
Il y a pas mal d'idées reçues, c'est vrai. Une première idée reçue, comme a dit ma collègue Séverine, c'est que c'est contagieux, qu'il faut pas toucher. Deuxième idée reçue, les mammographies peuvent effectivement, comment dire, booster si on a un cancer. Et la biopsie aussi, ça c'est une idée reçue qu'il faut vraiment combattre, le diagnostic de cancer du sein, comme on a dit, c'est sur l'étude microscopique, donc c'est la biopsie. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas faire la biopsie parce qu'en disant, en allant toucher à ma tumeur, ça va flamber. Or ça c'est pas vrai. Après, troisième idée reçue, bien sûr, c'est sur les traitements. On croit que en enlevant tout le sein, on va forcément s'en sortir. Or, on s'est rendu compte que maintenant, de nos jours, c'est pas obligatoire d'enlever le sein. Le traitement doit être approprié au stade et au type de cancer du sein. Et puis, une autre idée reçue que je voulais vraiment le dire, c'est que on n'est jamais à l'abri d'un cancer du sein. Les femmes jeunes, les moins jeunes, en France, la moyenne d'âge, c'est 61 ans, mais 10% des cancers du sein surviennent quand même avant 40 ans. Donc, une femme jeune, il doit s'alarmer aussi si elle a une boule au sein. Et y compris pendant la grossesse. Ça, j'insiste, parce que un cancer du sein sur 1000, enfin, on trouve un cancer du sein sur 1000 grossesses de nos jours. Donc, même pendant la grossesse, il faut être vigilante.
Et est-ce qu'il y a des aliments miracles? C'est ce qu'on lit régulièrement dans la presse féminine. Aliments miracles pour prévenir l'apparition d'un cancer. Des épices miracles.
Non, je pense pas. Comme on a dit, c'est un ensemble de choses. C'est le bon sens. C'est une hygiène de vie. Éviter tous les cofacteurs qui sont la pollution, les excès d'hormones, l'obésité. Et comme on en a parlé déjà pas mal, mais il n'y a pas d'aliments miracles, c'est le bon sens. Il faut manger de tout de façon équilibrée et des choses en général bon. Éviter le tabac et l'alcool. J'insiste énormément là-dessus parce que le tabac et l'alcool sont des cofacteurs des cancers du sein chez la femme, y compris bien sûr le cancer du sein, mais y compris le cancer du col. C'est vraiment démontré et vraiment il faut faire une campagne contre ça aussi.
Docteur Alran, vous coordonnez à l'hôpital Saint-Joseph à Paris le centre du sein et vous travaillez notamment avec des chiens renifleurs. Comment détecte-t-il quelqu'un qui souffre d'un cancer du sein et qui ne le sait pas?
Donc ce projet, je pense, est largement connu en particulier sur le continent africain. C'est un projet qui s'appelle CADOG, K pour cancer et DOG pour chien, qui a été initié par Isabelle Fromentin, qui est infirmière à l'Institut Curie.
Qui s'est intéressée
parce que dans les formes avancé de cancer du sein, on s'est aperçu qu'il y avait des odeurs parfois très nauséabondes et on pensait que c'était les bactéries, mais en fait on s'est aperçu qu'il y a les bactéries qui dégagent une odeur, mais que le cancer a sa propre odeur. Et donc le but de ce dépistage par l'odorologie canine, qui n'est pas encore, on va dire, il commence à y avoir des premières études qui montrent que le chien sait dépister le cancer. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il va être aussi performant que la mammographie. L'étude va ouvrir prochainement en mars. Et on est vraiment dans le dressage du chien pour l'odeur du cancer du sein, comme on le dresse pour les toxiques, pour la drogue. Donc, il y a vraiment une démonstration à faire. Donc, pour l'instant, les chiens sont plus performants que ce qu'on appelle la chromatographie gazeuse, c'est-à-dire ce que font les chimistes. Donc, ce collectif CADOG réunit plusieurs spécialistes, à la fois des cancérologues, des différents métiers, des infirmières, des médecins, mais aussi les dresseurs de chiens, la criminologie, la gendarmerie nationale, les chimistes, les biostatisticiens. Donc, c'est un grand consortium pour aller vers une signature odorante du cancer du sein. Et il faut dire qu'il y a des chiens qui sont dressés spécifiquement dans ce sens. Et sur le continent africain, les premiers tests CADOG sont actuellement à Bamako, grâce à l'engagement de Médecins Sans Frontières en cancérologie. Et donc, il y aura, on va dire, est-ce que l'odeur du cancer dans certains pays est différente de dans d'autres pays. Donc ça va être également prouvé. Toutes les hypothèses sont possibles. Et ensuite, c'est une étude qui nécessite beaucoup de moyens financiers pour démontrer et après aller peut-être vers de nouveaux tests diagnostic adapté à certaines populations.
Parce que l'intérêt de ce test, c'est qu'il ne coûterait pas cher.
Voilà, d'une part, il ne coûterait pas cher et c'est une compresse. Donc, il n'y a aucun contact entre le chien et les femmes. Et c'est une
voilà,
compresse.
On explique. Hein, il faut demander aux femmes de, il faudrait demander aux femmes de dormir avec un linge sur la poitrine.
Voilà, c'est une petite compresse adaptée. Et ensuite, cette petite compresse est glissée dans une enveloppe et envoyée par ADHL. Donc, en France, c'est comme ça parce qu'il y a un centre de dressage donc, qui est à Champvoisy. Hein, et donc ensuite, les odeurs peuvent rester des dizaines d'années. Hein, ça ne se perd pas. C'est les Hongrois qui travaillaient beaucoup sur l'odorologie. Hein, pendant 40 ans, on retrouve cette... Donc, et cette compresse est acheminée vers le centre de dressage. Et ensuite, la compresse est positionnée parmi d'autres compresses. Et on va voir si le chien est en capacité de détecter. Donc sur les 70 premiers cas, on a démontré que le chien testé dans plus de 90% est arrivé à... voir la compresse qui avait le cancer. Donc il y a une publication dans Oncologie qui vient juste d'être publiée. Donc le SOC scientifique est présent et donc la recherche va continuer. Et maintenant ça va être comparer le chien, la capacité du chien à la mammographie.
Donc c'est une piste extrêmement prometteuse en matière de prévention du cancer, de détection du cancer.
Très prometteuse, donc ça pourrait s'adresser par exemple aux patientes aux femmes, parce qu'on ne sait pas les patientes, hein, quand on ne sait pas qui n'adhéreraient pas au dépistage, ou à certaines populations, des femmes âgées, des personnes handicapées qui ont du mal à se déplacer, dans certains pays où la mammographie n'est pas accessible. Dans tous les cas, ça ne remplace absolument pas ni la mammo, ni l'écho, qui seront toujours indispensables pour localiser le cancer et le traiter.
Alors, il faut rappeler encore hein, quelques chiffres. 5 ans après le diagnostic, 99 femmes sur 100 sont toujours en vie lorsque le cancer a été détecté à un stade précoce, alors qu'elles ne sont que 26 sur 100 en cas de cancer détecté à un stade avancé. Est-ce que la guérison du cancer est définitive, docteur Calais?
La guérison de cancer, pour l'instant, n'est pas définitive. On parle de rémission complète, mais la guérison peut être envisagée dans les stades précoces, comme vous avez dit. Les cancers du sein de stade de début sont franchement, à mon avis, guérissables. Je voulais juste rebondir aussi sur les idées reçues de quelque chose, c'est qu'on a beaucoup parlé dans la presse de surdiagnostic en disant qu'on faisait des mammographies, qu'on trouvait des petits cancers du sein et que peut-être que ces cancers du sein n'auraient jamais évolué. Tant que on est dans ce mot de peut-être, moi ça me gêne énormément parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun test au monde qui peut prédire qu'un cancer va évoluer ou pas. Donc quand je trouve un petit cancer du sein, je suis presque contente en disant cette femme va s'en sortir, elle peut envisager une grossesse, elle peut mener une vie de femme normale, avec un coût de traitement pour la société qui est beaucoup moindre aussi que quand c'est des stades avancés. Donc c'est sur ce note d'espoir que j'espère que les femmes vont se faire dépister de plus en plus.
Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Priorité santé donc touche à sa fin. Merci à Ophélie Lassen et Baptiste Madinier qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée. Demain, émission spéciale Priorité santé enregistrée à Lavaur dans le Tarn. Pratiques et produits de santé traditionnels. Quelle place dans les systèmes de santé des pays du Sud? C'est la question dont débattront les invité de Caroline Paré. Vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émissions. À demain et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.